Bon matin à tous. C'est beau de commencer ce dimanche avec la providence de Dieu, avec tous ses livres offerts, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager ce matin l'atelier biblique. Pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Philippe. Je suis un ouvrier au centre de formation de l'Église Espoir depuis un an, avec mon épouse et nos trois enfants. Voilà un an qu'on est au Québec et on est vraiment encouragés par votre foi, votre résilience et votre désir de connaître Dieu. Venant de France, vraiment, je peux vous dire que beaucoup sont encouragés par votre foi. Et votre présence ici ce matin aussi prouve ce désir de connaître Dieu. Donc, gloire à Dieu. En ce matin, je vais continuer notre série sur la providence de Dieu. Et je vous invite à remémorer, il y a trois semaines, on a eu mon compère Clément Bourrel, aussi ouvrier en intégration de France, qui nous a partagé sur le but de la providence de Dieu. Quel est le but de la providence de Dieu? Et il nous avait dit que la providence de Dieu, premièrement, c'était pour connaître son nom. Et qu'aussi, la providence de Dieu s'est manifestée à travers l'alliance de Dieu, à travers son peuple, et la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Et qu'on était fait pour le glorifier et l'adorer. Et en ce matin, on ne va pas parler du but de la providence de Dieu, mais de comment Dieu pourvoit. Et vous allez me dire, mais Philippe, comment Dieu pourvoit? Ben, j'ai prié pour un travail et Dieu a pourvu. J'ai prié pour une situation avec un collègue et ça s'est arrangé. J'ai prié pour un conjoint, une conjointe et elle est arrivée. Mais comment se manifeste la providence de Dieu lorsque les réponses ne sont pas celles qu'on a attendues? Comment se manifeste la providence de Dieu lorsqu'il y a des catastrophes naturelles? Comment se manifeste la providence de Dieu lorsque la maladie et la mort est une saison de vie? Ou comment se manifeste la providence de Dieu lorsque Satan est à l'œuvre? Et en ce matin, c'est un thème assez délicat qui a aussi vu peut-être pas mal de frères et sœurs s'éloigner de la foi face à la souffrance et les épreuves de la vie. Et si on peut résumer la providence de Dieu, elle a pour objectif, vous avez les notes que vous pouvez prendre derrière, la providence de Dieu a pour objectif la joie irrépressible. C'est une joie qui est incontenable. La joie irrépressible et parfaite du peuple de Dieu face à la gloire de sa grâce éblouissante à l'extrême dans la souffrance triomphante du Fils de Dieu. Et en ce matin, alors que nous allons parler de comment Dieu pourvoit face aux différentes épreuves et saisons de la vie, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu en ce matin. Je ne sais pas par quoi vous passez, par quelles souffrances, par quelles épreuves, mais Dieu est là. Et je vous invite à prier et nous allons nous remettre au Seigneur. Père éternel, je te remercie pour cette grâce que tu nous fais ce matin de nous lever, le souffle de vie que tu insuffles encore aujourd'hui. Et Seigneur, alors que nous allons appréhender, essayer de comprendre un peu plus de qui tu es, de ta providence, Seigneur, révèle-nous par ta parole qui tu es. Permets-nous de comprendre une petite once de qui tu es, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des frères et sœurs qui passent par des moments de doute, de souffrance, d'épreuve, convainc-les que tu es toujours là, Seigneur. Et Père, je te remets cet instant, j'ai besoin de toi. Merci pour ce privilège que tu me fais de parler de toi. Et prépare nos cœurs, que ton Saint-Esprit parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce matin, nous aurons trois thèmes et comme l'a annoncé Yannick, vous avez été offert ce livre par Desiring God et nous allons voir la partie de la page 202 à la page 279. Et durant cette semaine, vous pouvez revoir un peu plus en détail notre atelier biblique. Si aujourd'hui, je dois vous dire comment Dieu pourvoit, il y a deux mots que John Piper utilise, c'est la portée de la providence de Dieu et la nature de la providence de Dieu. Un peu l'image de Dieu, un bras, jusqu'où entre guillemets, le bras de Dieu influence la vie de tous les jours. La portée, il dit que l'étendue ou l'amplitude de la gouvernance ou du contrôle de Dieu sur la réalité créée. Jusqu'où Dieu agit au quotidien dans nos vies. Donc vous avez l'image de ce bras de Dieu, entre guillemets, jusqu'où Dieu va dans l'influence de nos vies. Et la nature, c'est la manière dont Dieu influence sur ce sur quoi il gouverne. De quelle manière Dieu influence la volonté de Satan? Comment Dieu influence aussi les démons, les incrédules et ceux qu'il veut sauver? Nous aurons trois parties ce matin. La première partie, c'est la relation entre Dieu et la providence. La deuxième, c'est la relation entre la providence et la nature. Et la troisième, c'est la relation entre la providence de Dieu et Satan. Et avant de commencer, quelques informations et une image de notre Terre, de notre planète. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'astronomie, mais lorsque je suis au milieu de la nature et qu'il n'y a vraiment rien, je me dis, vraiment Seigneur, on semble tout petit. Mais ce n'est pas souvent ce qu'on pense. Quelques informations. Selon la population référence bureau, le BRB, il y a eu environ 117 milliards d'humains qui ont vécu sur la Terre. 117 milliards. Et nous sommes un. La superficie totale de la Terre, il y a environ 510 millions de kilomètres carrés. Le Québec en prend pas mal. Mais dans ces 510 millions, il y a environ 360 millions d'océans et 148 millions de kilomètres carrés de terre. On va parler aussi des espèces, les espèces animales. Environ 8,7 millions d'espèces, dont 7,7 millions d'espèces animales. Et pour ceux qui aiment les plantes, on est en automne. Hier, j'étais au parc Saint-Bruno, magnifique, je vous le recommande. Mais il y a environ 390 000 espèces de plantes. Comment nous situons-nous face à cette création de Dieu? Le premier point, c'est Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Lorsqu'on pense à toute cette échelle planétaire, on doit se sentir tout petit. On doit se sentir, mais Seigneur, comment as-tu porté le regard sur moi face à l'étendue de ta création, face à toute cette planète que tu as créée? Là, on n'a parlé que de la planète Terre. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Et quelle est notre position et quelle est notre posture face à cette déclaration? Dans Exode 3, verset 14, il dit que Dieu, je suis celui qui suis. Dieu est l'être absolu et la réalité absolue. Il était avant, aujourd'hui et éternellement. Nous ne le sommes pas. Dieu est totalement indépendant, il n'a pas besoin de notre avis pour choisir ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut, car il est propriétaire de cette terre. Et Dieu est la réalité la plus importante et la plus précieuse qu'il existe. Il est plus digne d'intérêt, d'attention, d'admiration et de plaisir que toutes les autres réalités, y compris l'univers entier. Quelle est notre posture face à cette déclaration que Dieu est Dieu? Et bien sûr, on a cette chute en Genèse 3, où on veut être à la place de Dieu, on veut tout comprendre, on veut tout contrôler, on veut tout savoir. Mais nous ne le sommes pas, frères et sœurs. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Ça prend un coup d'humilité pour le dire. C'est vrai, je ne le suis pas. Je désire avoir des réponses. Alors qu'on va partager sur des sujets assez délicats, Dieu nous permet de comprendre ce qu'il nous permet seulement de comprendre. Et j'aime bien ce que nous disait Florent Varac. Nous sommes tous comme des mendiants face à la connaissance de Dieu. il y a une réalité, c'est qu'on ne comprendra pas tout l'étendue de Dieu sur cette terre. Dans Ésaïe 46, versets 9 à 10, il est dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu fait sa volonté. Mais il prend soin de nous. Quand il pourvoit pour lui et il pourvoit pour nous. Le deuxième point, c'est Dieu et Providence. On l'a vu avec Clément, comment Dieu pourvoit ? Il pourvoit à travers son Fils Jésus-Christ, qui a été annoncé 1500 ans par les patriarches et les prophètes, qu'une personne va venir régner, une personne va venir nous sauver, une personne va venir nous pardonner de nos péchés et nous sauver de la mort. Dieu, la référence, l'expression que John Piper utilise, c'est « Dieu est le seul être dans tout l'univers pour qui l'auto-exaltation est un acte d'amour ultime. » L'objectif ultime de Dieu, notez-le bien, l'objectif ultime du plus grand amour serait le cadeau que Dieu nous ferait en sa propre personne pour le plaisir éternel de ceux qu'il aime. Et le troisième, c'est « Il n'existe rien de mieux, de plus grand, de plus beau ou de satisfaisant que Dieu lui-même. » Rappelez-vous de la dernière fois que Dieu a pourvu à une prière que vous avez faite. Est-ce que vous étiez plus focalisé sur la bénédiction ou est-ce que cette bénédiction vous a amené à Dieu ? Je répète, est-ce que vous étiez plus focalisé sur la bénédiction ou est-ce que la bénédiction vous a amené à la nature même de Dieu ? Je partageais il y a quelques mois à des frères et sœurs, aux anciens, aux réunions de prière, et je vous encourage à venir, on en a une ce mercredi, tous les mercredis du mois. Je partageais en mai, en fait, comme on est une famille missionnaire, on dépend des dons des frères et sœurs de France, qui vous aiment, vous autres. Ils sont vraiment encouragés par la mission de Dieu ici. Et en fait, on partageait, en tant que missionnaire, qu'on n'avait pas assez de partenaires de mission pour continuer la mission au Québec et qu'on devait sûrement rentrer en France. L'agence missionnaire nous avait dit, Philippe, Myriam, on n'est peut-être pas certain que vous pouvez revenir au Québec en septembre. Et c'était un sujet de prière qu'on a partagé à la réunion de prière, que Seigneur, si tu veux qu'on continue ici, on aimerait continuer. Si tu veux qu'on rentre en France, que ta volonté soit faite. Et l'agence nous avait annoncé, Philippe, Myriam, vous avez un déficit de 22 000 $ sur votre budget. Comment faire ? Beaucoup de vous avaient prié sur cela. Beaucoup a dit, Seigneur, si tu veux garder Philippe et Myriam ici au Québec, pourvois. Et nous, on était prêts à continuer ou à rentrer en France. Et durant cet été, en juillet, on a fait 3 visites d'église. On a eu aussi un événement douloureux avec la perte du papa de Myriam. Mais durant ces 3 visites d'église, en mi-août, l'association missionnaire nous a dit, Philippe, Myriam, gloire à Dieu. On a enregistré plus de 21 000 $ de dons en un seul mois. Et vous pouvez retourner au Québec. Beaucoup de gens prient pour vous. Beaucoup de gens croient en ce que Dieu fait ici au Québec. Et j'aurais pu dire, ouah, Seigneur, 20 000 $, c'est énorme. Mais tout appartient au Seigneur. Et en fait, les bénédictions que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous être fixés sur les bénédictions, mais c'est pour comprendre la nature de Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il est. Je répète, ce qu'il fait et ce qu'il est. Il n'y a pas d'ombre de variation. Lorsque Dieu pourvoit, il a toujours pourvu. Lorsque Dieu est bon, il est toujours bon. Comparé à moi, lorsque je peux être bon un jour, le lendemain, je ne serai pas bon. Demandez à Myriam. Mais Dieu ne change pas. Et Dieu est providence et il l'a montré à travers son Fils Jésus-Christ. Il a tout donné en Jésus-Christ, ce qu'il avait de plus précieux. Dieu est providence. Et je suis persuadé que vous avez des exemples de comment Dieu a pourvu. Mais Dieu nous demande de faire l'étape suivante. Ne pas juste dire, ah Seigneur, merci pour cet enfant pour qui on a prié, ou merci pour ce travail que j'ai eu. Il y a l'étape suivante. Seigneur, ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième partie, on va passer à un sujet qui est la nature. Et comme je dis, au Québec, vous êtes bénis. Le froid s'en vient, mais ici, vous avez les quatre saisons. En France, on a 1 mm, 1 cm de neige et c'est l'hécatombe, il y a des bouchons, il y a tout ce qu'il faut. Mais ici, vraiment, la première année, on voit comment Dieu agit dans sa nature. Et souvent, quand on parle de la création, il y a cette image de la galaxie, on parle d'un instant T, de Genèse. Dieu a créé l'univers. On est d'accord, Genèse 1, il a créé les cieux et la terre. Mais on parle souvent, rarement, que Dieu soutient en fait toute cette création. Que constamment Dieu soutient l'herbe, les arbres, il donne à manger aux animaux, aux oiseaux. Et tout comme nous aujourd'hui, qui est-ce qui a décidé en ce matin, oui, je vais prendre des bouchées d'oxygène, je vais respirer. On le fait souvent inconsciemment. On va parler du souffle de la vie, du début à la fin, mais Dieu est celui qui maintient constamment sa création. Et un des psaumes qui parle de sa création, c'est le psaume 104. En ce matin, nous aurons deux passages, un dans psaume 104 et un autre dans Job. Mais psaume 104, et je vais le lire pour vous. Dieu, il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Il fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Quand on contemple la nature de Dieu, sa création, on se réjouit de qui il est. John Piper nous dit aussi qu'il est important de voir les petits détails de la nature de la création. Oui, Dieu soutient sa création constamment, mais il y a aussi des éléments dans la nature qui sont difficiles. Lorsqu'on parle de la mesure de la providence, s'il y a la maladie, s'il y a des catastrophes naturelles, on doit savoir comment Dieu pourvoit face à ces circonstances difficiles de la vie. Et en étudiant aussi la providence de Dieu, on peut savoir quelle est la conviction profonde et inébranlable de la providence de Dieu. Et aussi, qu'est-ce que dit la Bible sur l'objectif de Dieu dans sa gouvernance. Et John Piper, dans son livre, sur cette partie-là, il parle de plusieurs aspects, dont cinq, dans la création. Il y a la terre, l'eau, le vent, les plantes et les animaux. J'ai pris une petite photo du Québec. J'espère qu'un jour j'en verrai un, c'est l'orignal. Mais qui représente la terre, l'eau, le vent, les plantes et les animaux. Tout cela, Dieu soutient sa création. Peut-être j'ai éveillé l'appétit de certains en montrant cet animal, je suis désolé. Mais on va parcourir brièvement ce que la Bible dit sur ces cinq éléments. Vous avez les notes et aussi vous avez maintenant le livre où vous pouvez revoir si cela vous intéresse plus en détail, ces éléments. La terre. Dieu est le créateur de la terre. Il en est le propriétaire et il en fait ce qu'il veut. Dieu fait selon sa volonté. Et comme on a dit, sa volonté ultime, c'est qu'on puisse le connaître, qu'on puisse se réjouir en lui. Il fait toutes choses selon sa volonté, de la terre même lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, Dieu veut qu'on puisse pointer vers lui et dire, il y a un Dieu. Deuxième, il y a aussi l'eau, l'épisode du lac, lorsque un des disciples essaie de marcher sur l'eau. Dieu fige pour que cette personne puisse, Pierre, puisse marcher dans l'eau. Il contrôle les vents et les mers, la mer des roseaux, avec les épisodes, les plaies en Égypte. Dieu fait selon sa volonté, tout comme la pluie, la sécheresse et la famine, pour qu'on puisse voir qui il est. Le vent, il est dit qu'en Exode 10-13 que Dieu fait souffler un vent d'Orient. Et tout cela, le Seigneur fait selon sa volonté, pour que nous puissions pointer et regarder vers qui il est. Les plantes, pour ceux qui ont la main verte, savent mieux que moi. Et on a l'épisode de Jonas qui se réjouit face à une plante qui pousse. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Et beaucoup de frères et sœurs ici aiment beaucoup la nature ici et se promènent dans les parcs pour prendre des belles photos. Vous êtes bien mieux placés que moi après un an pour savoir que Dieu prend soin des plantes. Dieu fait selon sa volonté et la création nous pointe vers lui. Les animaux, Dieu donne la nourriture au bétail et aux petits corbeaux. Et il le dit dans Matthieu aussi, qui prend soin des oiseaux et des plantes. La plus forte raison prendra soin de nous. Toute la création nous pointe vers le Dieu providentiel. Il maintient sa création. Et bien sûr, on a ce désir de voir une création pleinement restaurée, un désir de voir ce jardin d'Éden où il n'y a plus de catastrophes, où il n'y a plus de maux, où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus de souffrances. Ça s'en vient. La troisième partie est notre dernière partie, et nous aurons un temps de questions et réponses, et qui est une partie assez délicate, comme je vous disais, sur la providence de Dieu et l'œuvre de Satan. Comment Dieu pourvoit alors que Satan veut nous arracher? Il est dit, hein, il veut nous dévorer. La relation entre la providence et Satan, troisième partie, c'est que Dieu domine et délimite Satan et ses démons. Satan a deux manières d'agir. Première, et je pense que nos frères et sœurs africains ou d'Amérique latine sont beaucoup plus sensibles à cela, Satan va attaquer certaines fois directement les esprits. Que ce soit par des personnes possédées, par des personnes qui sont emprises, et on le voit, Jésus, combien de fois il délivre des personnes sous emprise. Peut-être que dans notre milieu ici, occidental ou en France, on a un peu plus de mal à comprendre ces réalités-là, mais Satan agit directement certaines fois. Et vous pouvez même demander à un des missionnaires que l'Église Espoir soutient, Denis Maisonneuve, à cette île, « Hey, comment ça se passe le combat spirituel chez les Innus ?» C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Il vous le dira. Ou deuxième, et je pense que nous avons ce recul nécessaire, Satan agit indirectement par le confort, par « tu es suffisant, Philippe », par les addictions, par différentes tentations que ce monde nous propose. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un missionnaire du Pakistan. Et on discutait dans le bus et il me disait, Philippe, là je viens pour ce congrès à Lausanne, le congrès de Lausanne, mais en fait il y a deux semaines, mon église, elle a été complètement brûlée. Les enfants venaient à l'église pour avoir une maison, mais aujourd'hui ils n'ont plus rien. Comment Dieu pourvoit dans ces situations-là? Comment Dieu influence lorsque le mal s'attaque aux frères et sœurs. Piper énonce 10 relations entre la providence de Dieu et l'œuvre de Satan. Et vous les avez notées ici, c'est sur la domination mandatée de Satan sur le monde, sur les démons et les esprits maléfiques, sur la main de Satan dans la persécution, sur le pouvoir de Satan de prendre la vie, sur la main de Satan dans les catastrophes naturelles, sur le pouvoir de Satan pour causer la maladie, sur l'utilisation par Satan de la faune et de la flore, sur les tentations pécheresses de Satan, sur le pouvoir de Satan d'aveugler les esprits et sur l'esclavage spirituel de Satan. Et encore une fois, vous avez le livre pour aller plus en profondeur sur peut-être un des aspects qui vous parle le plus. Mais Piper dit que toutes les actions de Satan sont non absolues et non décisives. On a l'exemple parfait en Job. Lorsqu'en Job 1, tout va bien pour Job, il a 10 enfants, il a de nombreux bétails, il réussit, il a des serviteurs, il a des propriétés, tout va bien pour lui. Et Dieu permet l'œuvre de Satan dans un cadre. Il lui dit « oui, tu peux, mais pas sur ça ». Et c'est pareil aujourd'hui pour nous. Satan demande la permission à Dieu d'agir. Je ne sais pas si pour vous, des fois, vous avez fait des barbecues et il y a une abeille ou une mouche qui vous embête. Moi, je prends souvent un gobelet et je mets le gobelet sur la mouche. Bon, je ne suis pas si cruel que ça, mais je la relâche. Mais c'est pareil, en fait. Dieu délimite l'action de Satan. Comme cette mouche qui ne peut pas aller au-delà de ce gobelet, Dieu délimite l'action de Satan. Comment Dieu agit lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a les épreuves de la vie, lorsque Satan veut nous arracher? Il le dit, qu'il le permet, mais que c'est lui qui domine et guide tout. J'aime beaucoup ces exemples de foi qu'on a dans le monde, et vous en faites partie, de frères et sœurs qui, sous la persécution, en fait, continuent à servir Dieu, continuent à l'adorer, continuent à se réunir, alors que c'est interdit ou illégal de se réunir. Aujourd'hui, l'Église qui grandit le plus, c'est en Iran, au Moyen-Orient. En 1975, il y avait 500 chrétiens en Iran, 500, un peu plus que l'Église Espoir, dans tout l'Iran. Et en fait, là-bas, c'est illégal de se réunir, c'est illégal d'avoir un autre Dieu que Allah. Et aujourd'hui, face à la persécution, les chrétiens continuent à évangéliser, les chrétiens continuent à partager leur foi, les chrétiens continuent à se réunir dans leur maison, sous peine de la prison. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il suscite et il continue à faire grandir son Église. Il l'a bâtie ici et en Iran et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, en Iran, il y a plus de 1,2 million de chrétiens qui vivent sous la persécution. Et c'est une manière pour Dieu de dire qu'il triomphe de l'œuvre de Satan. On a l'exemple aussi du verset dans Genèse 50-20. Ce que tu as projeté de mal, Dieu l'a changé en bien. Mais c'est sûr qu'on a encore cette tension entre « Seigneur, j'aimerais que tu finisses tout ça, j'aimerais qu'il n'y ait plus de maladie, il n'y ait plus de souffrance des frères et sœurs, il n'y ait plus tout cela. » Dieu a déjà triomphé et il va triompher complètement. C'est cette tension entre le « déjà » et le « pas encore ». Frères et sœurs de l'Église Espoir, vous êtes déjà saints. Amen. Mais pas encore, jusqu'à ce qu'on sera ressuscité. Nous avons déjà cette vie éternelle, mais pas encore, puisque le Seigneur ne nous a pas encore rappelés à lui ou n'est pas encore revenu. C'est cette tension entre le déjà et le pas encore. Mais Dieu a déjà triomphé de Satan sur la croix, en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Dieu a déjà triomphé de Satan. Et John Piper énonce 4 réponse biblique indirecte sur comment Dieu triomphe de Satan. Dieu triomphe de Satan en montrant davantage de ses propres attributs. Dieu, en son temps, triomphe de Satan. Et on a l'exemple de la femme courbée pendant 18 ans courbée, malade. Et Dieu a choisi le moment parfait pour montrer sa gloire et la guérison. Et cela a pu montrer aussi à ceux qui attaquaient Jésus qu'il était bien autoritaire et tout-puissant. Dieu triomphe de Satan en souffrant. Et comme nous le savons et nous le chantons et nous le proclamons, Jésus a vaincu Satan par ses souffrances et par sa mort. Dieu triomphe de Satan par Satan. Celle-là, elle est peut-être un peu plus délicate, mais lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes dans les vallées difficiles de la mort ou de la maladie ou de d'autres épreuves de la vie, mais que nous déclarons que Jésus est Maître, Seigneur et Sauveur et que notre joie est en lui, nous montrons que Satan n'a pas d'effet sur nous. Et ça, c'est un triomphe de Dieu par notre vie et l'Esprit Saint qu'il a mis en nous. Et Dieu triomphe de Satan en savourant. Lorsqu'on lui dit, non, Satan, tout ce que tu as proposé, les tentations de ce monde, ça ne m'intéresse pas, parce que je cours vers le prolongation sur ce que vous vivez, sur ce que nous vivons. Peut-être que vous êtes à une saison de vie où il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas encore acceptées. Et le livre de Job nous montre pleinement cette situation. Job avait selon ce monde tout. Mais Dieu a utilisé la souffrance pour l'affermir. Dieu éduque Job par la souffrance. Dieu se sert de la souffrance pour nous parler. Et nous avons tous en un coin de notre cœur ce désir. Seigneur, si un jour il n'y a plus de souffrance, j'aimerais y être déjà. J'ai hâte. J'ai hâte. Et comme le dit l'apôtre Paul, j'ai hâte d'être auprès de Dieu, mais je sais que tu m'appelles encore ici pour bénir l'Église et la servir. Job s'est débattu à un moment donné lorsque ses amis l'ont abandonné, lorsque la douleur était immense face à la perte de ses 10 enfants, face à la catastrophe naturelle qui a tout détruit. Mais Dieu, mais où est-ce que tu es? Non, mais tu ne peux pas être Dieu. Comment toute cette souffrance-là, c'est trop. Et en ce matin, nous avons 2 réponses face à la providence de Dieu. Le psaume 104, c'est un psaume qui vraiment nous montre toute la création de Dieu et sa gloire. Nous avons le choix de dire que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. La 2e réponse aussi, que après cette débattue, Job reconnaît et répond à l'Éternel. Job dit, je reconnais, Dieu, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dieu est un Dieu paradoxal dans le sens où, lorsque nous devions, selon ce monde, être tristes, si la mort vient à notre chevet, nous avons cette joie de la vie éternelle. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de pécheurs à enfants de Dieu. Et nous avons aussi dans le Matthieu, le sermon sur la montagne, toutes ces béatitudes. Comment pouvons-nous être heureux lorsqu'on nous persécute? Comment est-ce que je peux être heureux lorsque je pleure? Et en fait, c'est l'œuvre de Dieu que ce qui semble mal pour ce monde, il le transforme en bien pour sa gloire. Prions et nous allons avoir un moment de questions-réponses. Père éternel, nous te remercions pour qui tu es, ce Dieu qui ne change jamais, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ce Dieu qui était et qui est et qui sera toujours bon. Nous changeons, tu ne changes pas. Tu es Dieu et nous ne le sommes pas. Et Seigneur, on te remercie pour ta grâce que tu nous fais de te connaître. Et il y a encore tellement de choses que nous aimerons comprendre face à la souffrance, face à ce monde qui part à sa perte, face aussi à ces choses que nous pensons injustes, comme Job. Mais Seigneur, nous voulons fixer les yeux vers toi, car tu es immuable et tu fais ce que tu veux pour ta gloire et pour que nous puissions prendre pleinement plaisir et joie en toi. Et Seigneur, oui, merci de t'être révélé à nous dans ta grâce. Merci pour la joie que nous avons de t'appartenir. Nous qui étions tes ennemis, tu nous transformes en tes amis, en tes enfants. Nous qui étions morts, tu nous donnes la vie. Nous qui étions emprisonnés, tu nous libères. Nous qui étions sans valeur, tu nous donnes une nouvelle valeur, Seigneur, en toi. Merci pour cette union en Jésus que nous avons, qui est tout pour nous. Et Seigneur, je prie que dans les épreuves de la vie, nous puissions constamment déclarer que ta grâce nous suffit. Et que oui, nous puissions dire que notre oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant nous te voyons dans nos vies. Continue ton œuvre en chacun, continue ton œuvre pour ta gloire, et que nous puissions mieux te ressembler jour après jour, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. On a un temps de questions de réponses. Un moment que j'aime peut-être pas. Mais sentez-vous libre de prendre le micro. Il y a un micro qui circule. J'ai pris du plaisir à parcourir cela dans la saison de vie que nous traversons en couple, en famille, une saison de deuil, une saison de souffrance, mais une saison aussi que Dieu transforme et nous voulons le rendre gloire pour l'œuvre qu'il fait dans la vie de chacun. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu? Des remarques? Oui, Coco.
Merci, Philippe. C'est de l'aide que je demande pour comprendre par rapport à la providence de Dieu. Vous avez cité la population humaine sur la terre qui a vécu. Et une chose qui me préoccupe dans mes réflexions, c'est un peu quand le diable venait sur la terre, sa volonté était de faire de sorte que le plus d'hommes se détournent de Dieu. Et quand je vois, selon les statistiques, combien de personnes connaissent Dieu, tout moins dans le monde contemporain aujourd'hui, je me demande si, d'une certaine manière, le diable n'a pas réussi.
C'est une très bonne question, Coco. C'est une très, très, très bonne question. Bon, je suis reconnaissant que je suis ouvrier en formation, donc j'ai un joker. Il y a un passage, lorsqu'on parle de la croyance en Dieu et aussi la non-croyance des personnes, hein, c'est ça ta question. Il y a un passage dans Romains 9, lorsque l'apôtre Paul parle de cela, mais je vais vous le lire. Romains 9, chapitre 9, versets 14 à 19. Et c'est une question qui est totalement légitime, puisque je pense qu'on crie et on prie pour des enfants ou pour des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur. Et ça, c'est vraiment notre désir. Et on a des fois ce sentiment d'injustice. Mais pourquoi cette personne est en Christ, mais en Jésus, mais pas mon enfant ou mon parent? Et vraiment, cette réponse en Romains 9, versets 14 à 18, « Qui dirons-nous donc, Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Il y a une réponse qui est certaine, c'est que Satan n'a pas gagné. Satan, c'est comme cette mouche qui essaie de faire du mal mais qui n'arrive pas dans le gobelet. Parce que Dieu essaie de produire en nous un fruit beaucoup plus de valeur face aux souffrances. Et on l'a vu dans les épîtres de Jacques ou de Philippiens, combien les frères et sœurs, dans les premiers temps, étaient persécutés. Et pourtant, ils continuaient à partager la parole et à persévérer. Et en fait, je pense qu'on a tous ce sentiment, comme dit Coco, de cette injustice, mais il y a tellement de gens que j'aurais voulu voir venir à Dieu avant qu'ils décèdent. Et je pense que cette injustice doit nous motiver à partager la bonne nouvelle. De ne pas dire « Ah, mais Seigneur, tu es injuste. » Non, mais Seigneur, tu me donnes cette responsabilité d'aller, de faire des disciples parmi les nations, et en même temps, tu es souverain. C'est toujours cette tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. On prie pour que les gens qu'on rencontre dans notre entourage, les voisins, les collègues, viennent au Seigneur. Et en même temps, Dieu utilise notre témoignage. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que non, Satan n'a pas gagné. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qui est à lui. Il y a deux réactions. Il y a soit la réaction de Pharaon qui s'endurcit, hein, ou soit il y a aussi la réaction, là je suis dans le livre de Deux Rois de Naaman qui avait une maladie de peau et le prophète Élisée lui dit va te plonger cette fois. Il dit pourquoi? Et en fait à la fin il dit voici je reconnais que ton Dieu est l'Éternel. Il dit, je ne sais plus le verset, mais est-ce qu'il dit « Ah, merci, je suis guéri ?» Non, il dit « Voici, je reconnais que ton Dieu est l'Éternel. » Donc, deux réactions face au partage, à la souveraineté de Dieu en qui il sauve et à notre responsabilité humaine. Et si dans notre cœur, on ressent de l'injustice, que cette injustice nous donne le courage, on a fêté les 65 ans, donne le courage à partager notre témoignage, à se former à l'évangélisation aussi. L'évangélisation, ce n'est pas une étape au-dessus pour les gens plus spirituels. Non, c'est naturellement, comme je peux parler de foot, de soccer avec Miguel, je parle de Jésus avec mon voisin, avec mon coiffeur. C'est naturel. Donc que cette injustice ne soit pas, comment dire, une focalisation, mais que nous puisse être un moteur de notre pas d'obéissance et de courage à partager l'évangile. Ça va, Coco? Ouais, n'hésite pas. Oui, Karine. Je n'ai pas encore rencontré tout le monde, mais ça s'en vient. J'espère pouvoir. Karine, dis-moi.
Mais deux choses. La première, c'est que peu importe la semaine, là, je vais dire à Jean-Pierre, bon, ben, pour la période de questions, on ne va pas parler encore de sotériologie. Ben oui, on revient encore sur le sujet. Fait qu'Yannick, il faudrait peut-être aborder le sujet, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose il y a des interrogations pour faire suite à ce que mon frère a dit tantôt. Oui. On voit dans l'Ancien Testament que c'est toujours un reste. Dans le plan de Dieu, il y a un reste avec Israël. Fait que c'est normal que dans le plan de Dieu, ça soit une minorité, mais ma question, c'est, OK, on est 1% au Québec. Là. Mm. Je ne sais pas en France, il y a combien de chrétiens évangéliques? C'est quoi le pourcentage?
C'est 1,5.
Ici, fait, bon, c'est oui, vraiment oui. mieux. Là. Fait, je me dis, OK, les générations passent, puis ça n'augmente pas. Donc, c'est ça. Fait, c'est ma question, c'est un peu en lien avec, avec ce qu'elle avait dit. Là. Mm. Donc, pourquoi? Tu sais? Si on sait que c'est dans le plan de Dieu, mais pourquoi?
Oui, oui. Et je pense que j'aurai plus de réponses par rapport à votre expérience de vie chrétienne. Comme terre de mission en France, on est l'un des premiers couples avec la CIM, qui est une grosse association missionnaire de 4000 missionnaires. On a dit non, mais le Québec n'a pas besoin de Jésus. Ils ont tout, ils ont la santé, ils ont le matérialisme. Tout est bien, le confort. Les Français, au plateau, rêvent d'aller au Canada pour vivre the American dream. Mais peut-être c'est aussi un des difficultés qu'on se met peut-être dans un confort et le fait d'éviter les conflits, parce que quand on partage l'Évangile, et vous êtes des témoignages, beaucoup sont rejetés de leur famille. Mais Dieu nous demande de prendre courage. Que la persécution, nous puissions trouver la joie dedans. Que comme mon frère Asif en Pakistan, ils sont peut-être 1,27 alors que c'est hindouiste, et hindouiste c'est très violent. Ben, il persévère et c'est le Seigneur qui bâtit son église. Mais oui, je comprends. Oui, Linda.
Ben, moi je vois ça comme deux volets, je dirais. Dans le sens que oui, peut-être que l'Église dort. Mm. On dort peut-être un peu trop sur le fait de partager notre foi. Sans nous mettre à part, le Québec vit quand même une situation particulière de par l'arrière-plan catholique qui a été la nôtre et qui est un peu le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui, mais pas une fin en soi. Mm. Je crois qu'on a à se motiver pour parler de Dieu puis partager notre foi, moi la première. Mais je pense qu'on ne peut pas dire, nous, on, dans les situations qu'on vit de par notre foi, oui, on peut voir de l'injustice dans le sens que, oui, j'ai des parents qui sont décédés, qui ont, à ma connaissance, ne connaissent pas Dieu comme Sauveur et Seigneur. Mm. Je vais avoir des frères, des sœurs, comme beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on vit.
Oui.
Mais on ne peut pas parler d'injustice. Avec tout ce qu'on a lu jusqu'à date dans le livre La Providence, que ce soit sur les animaux, les éléments, etc., et jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est dans la sainteté et la justice, l'omniscience de Dieu qu'il faut se tourner pour voir. Et comme tu disais tantôt, c'est notre responsabilité. Il y a une part de notre responsabilité de communiquer la parole, de faire connaître Jésus.
Amen. Et l'apôtre Paul a totalement compris cela. Il n'est pas là, avec ce passage en Romains 9, à questionner. Il dit, Seigneur, c'est ta grâce. Tu me donnes cette responsabilité de prêcher aux païens. Je fais ce que tu me demandes. J'obéis, je prends courage. Je vais en prison plusieurs fois. Et ta grâce me suffit. Réjouissez-vous. Vous voyez? Et c'est la joie qu'on a de lui appartenir, malgré les épreuves de la vie, malgré les souffrances. Et le monde verra, waouh, mais Linda, ta famille t'a rejeté, mais pourtant tu persévères dans la prière, dans la connaissance de Dieu. Vous êtes là à persévérer ce matin pour l'atelier biblique, et c'est un sujet de reconnaissance. Donc ouais, prenons courage ensemble, on est ensemble. Oui. Il y avait une question là-bas, Daniel.
Oui, bonjour.
Salut.
Merci pour l'exposé. Ma réaction par rapport à toutes ces questions serait plutôt de lire ce chapitre de Pierre 3. Mm-hmm. Et je ne vais pas lire tous les versets, mais vous pouvez lire vous-même et continuer. Dans verset 3, de 22, Pierre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Amen.
Vous pouvez continuer à lire, mais moi, mm-hmm. ce que je pense, c'est que tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit, c'est la réalité mm-hmm. et c'est la vérité. Amen. Peu importe que dans notre compréhension humaine, dans notre intelligence humaine, qu'on ne comprend pas certaines choses, il y a mm-hmm. des mystères,
ouais.
mais c'est que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Tout ce mm-hmm. qu'il dit, il l'accomplira.
Amen. Merci, Daniel. Et c'est une réalité, je vous partageais au début notre posture. Pour ceux peut-être qui sont locataires ou propriétaires, c'est difficile pour un locataire de dire « Excuse-moi, je loue ton condo, mais refais-moi tous les travaux. » On va dire, le propriétaire va dire « Non, c'est mon bien. » Et je pense que c'est pareil pour Dieu, on ne peut pas lui dire « Fais ci, fais ça. » Parce que ce n'est pas notre place. On ne va pas tout comprendre sur cette terre. Et ça, c'est certain. Si quelqu'un arrive et dit, si Yannick vient un jour et dit « J'ai tout compris de Dieu », je pense qu'on peut s'interroger sur cela. On ne pourra pas tout comprendre de Dieu. Et ça, c'est une réalité et on doit l'accepter tout en ayant cette joie et le privilège de le connaître et de le servir. Dernière question, je pense. Oui, oui, Timothée.
En fait, c'est une question que je me suis chamaillé beaucoup avec au niveau d'élection, mais dans mes recherches, qu'est-ce qui m'avait aidé avec ma perception de ça, c'est que Christ s'avait élu lui-même à la rédemption puis à la croix. Fait, quand on regarde toute cette idée-là de colère de Dieu, Christ s'est offert lui-même par choix. Fait que là, quand on regarde ça d'un nouvel œil, il faut prendre le même Dieu qui s'est choisi à la croix lui-même, qui après ça, qui a la colère parfaite aussi, comme dans Romains 1, j'avais partagé Romains 1, mais c'est long. Mais moi, c'est ça que je vais partager.
Merci pour le partage.